Bonjour à tous. Je tiens à remercier la chapelle de son accueil et je remercie le site catholique de France de prendre la peine de filmer la vidéo et de la diffuser. Alors, je suis venu ici la première fois au printemps 2019. Et depuis lors, la situation a beaucoup changé d'un point de vue, du point de vue du combat spirituel. Le front spirituel, je dirais, a changé. Et ce, pour trois raisons. La première raison, c'est que notre cher Jorge Mario Bergoglio a été fidèle à lui-même. Ce qui veut dire qu'il a multiplié les hérésies les plus saugrenues et il a multiplié les provocations anticatholiques. Quelques exemples de ce qui s'est passé de ces deux dernières années. Vous vous en souvenez, lors du synode sur l'Amazonie, la secte conciliaire, aux yeux du monde, à la face du monde, a adoré le démon Pachamama. Tout va bien. Quelques mois plus tard, a été publié le document Querida Amazonia, et dans ce document ubuesque, Bergoglio incite les catholiques à valoriser la mystique des autochtones amazoniens, c'est-à-dire une mystique païenne, comme si un successeur de Saint-Pierre pouvait demander à ce qu'on valorise une fausse religion. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, a été publiée l'encyclique Fratelli Tutti, que je surnomme moi Fratello Tutti, parce que c'est une reprise de, enfin, c'est une reprise du projet, enfin, c'est une reprise du projet maçonnique de fraternité universelle. Et Bergoglio appelle, par ailleurs, à l'approfondissement de la gouvernance mondiale. Et puis dedans, il y a plein d'hérésies. Il nous dit que le bon Dieu valorise ce qu'il y a de bon dans les fausses religions, enfin bref. Il y a toujours son petit lot d'hérésie avec notre cher Jorge Mario. Actuellement, à l'heure où nous parlons, en Allemagne, des dizaines, peut-être des centaines de clercs conciliaires bénissent des unions homosexuelles. Alors que, quelques semaines plus tôt, avait été publié un document conciliaire s'opposant à ce genre de bénédiction. Petite parenthèse, comme s'il y avait un doute. Hein? Bon. Donc, en Allemagne, vague de bénédictions d'union contre nature. Que fait Bergoglio? Que fait la hiérarchie conciliaire? Rien, aucune sanction. Donc, la hiérarchie conciliaire valide. Tout ceci est bon pour nous. Pourquoi? Parce que la secte conciliaire a pour force d'avancer masquée. Donc, tout ce qui permet de montrer son véritable visage est une bonne chose. Voilà. Donc, Jorge Mario Bergoglio a énormément fait pour la démonstration de la vacance du siège ces dernières années. Je lui en suis reconnaissant et je l'invite à continuer sur sa lancée. Voilà. Deuxième événement capital qui s'est produit, c'est très simple, hein, c'est l'abjuration de Vatican II par l'ex numéro 3 du Vatican, l'abbé Carlo Maria Vigano. Alors, où en est aujourd'hui l'abbé Vigano, puisque c'est une abjuration qui s'est faite progressivement. Hein. Bon. Alors, citation de l'abbé Vigano en date du 20 avril 2021 au site LifeSite News. J'ai l'impression que les sites qui l'interrogent ne comprennent pas ce qu'il dit d'ailleurs. C'est assez intéressant hein, parce qu'ils ne rebondissent pas en fait. Voilà, ils ne rebondissent pas sur la portée de ses propos. Bon. Alors, citation. À la Salette, Notre-Dame nous a avertis. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Ce ne sera pas la Sainte Église indéfectible par les promesses du Christ qui perdra la foi. Ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre et que nous voyons aujourd'hui propager l'anti-évangile du nouvel ordre mondial. Il n'est plus possible de se taire, car aujourd'hui notre silence ferait de nous des complices, des ennemis de Dieu et du genre humain. Autre citation. Alors celle-ci date du 24 octobre 2020. Depuis 60 ans, nous avons assisté à l'éclipse de la véritable Église par une contre-Église qui s'est progressivement appropriée son nom, a occupé la curie romaine et ses dicastères, diocèses et paroisses, séminaires et universités, couvents et monastères. La contre-Église a usurpé son autorité et ses ministres porte ses vêtements sacrés. Elle utilise son prestige, son pouvoir pour s'approprier ses trésors, ses biens et ses finances. Et dernière citation en date du 23 novembre 2020. Et si un jour Bergoglio nous dit que, pour rester en communion avec lui, nous devons accomplir un acte qui offense Dieu, nous aurons une nouvelle confirmation qu'il est un imposteur et qu'en tant que tel, il n'a aucune autorité. Qu'est-ce qui manque? Pas grand-chose, hein, pour ne pas dire rien. Donc, l'abbé Viganò nous dit clairement, une secte occupe le siège du très bienheureux Pierre. Une fausse église éclipse la véritable église. Et il dit, je ne suis pas en communion avec Jorge Mario Bergoglio, c'est un imposteur et il n'a aucune autorité. J'ajoute que dans des entretiens ultérieurs, il a évoqué sa conversion au sujet de sa prise de conscience de la tromperie conciliaire. Ce que je trouve assez intéressant. Donc l'abbé Viganò nous fait du bien, pourquoi? Parce que il affaiblit la secte. Les conciliaires de bonne volonté sont amenés à s'interroger sur Vatican II. Et surtout, ils crédibilisent à fond notre position. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je le vois parce que je fréquente beaucoup de lefebvristes et de conciliaires conservateurs socialement, si je puis dire. Notre position, elle fait pleurer le grand monde. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, deuxième bouleversement, l'abbé Carlo-Marie Viganò, dont nous espérons que le sacre arrivera le plus vite possible. Troisième événement. Alors, cet événement est beaucoup plus proche de nous. Il nous concerne même directement, puisque il s'est constitué au sein de ce que j'appelle la nouvelle opinion publique, une avant-garde catholique, ce qui n'existait pas ces dernières années. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle opinion publique? C'est l'opinion publique qui est née sur Internet et qui tend vers des idées françaises, nationales, entre guillemets de droite, voire contre-révolutionnaires, etc. Elle n'est pas parfaite, hein, cette nouvelle opinion publique. Toute œuvre humaine, de toute façon, est imparfaite. Mais il s'est constitué en son sein, ces dernières années, une avant-garde catholique. Alors, la date de naissance de ce mouvement que je retiens, enfin la période, c'est le printemps 2018. Pourquoi? C'est simple. C'est parce que c'est le moment de la publication de l'ouvrage, de l'excellent ouvrage du collectif Saint-Robert Bellarmine, 60 ans de religion conciliaire. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cet ouvrage? C'est qu'on n'est pas dans la pseudo-dénonciation des ennemis, on est sur le terrain sur lequel je crois le bon Dieu nous attend, qui est la défense des principes. Et c'est un livre de défense des principes, et comme par hasard, comme on est sur le terrain de la défense des principes et qu'on attaque la secte par cet angle, eh bien, il y a une critique de la fraternité sur le plan de la défense des principes. C'est un ouvrage d'ailleurs que je recommande comme entrée en matière, je dirais. C'est une bonne porte d'entrée pour toutes les questions qui nous importent. Donc cet ouvrage a été publié et donc il s'est constitué cette avant-garde catholique. Alors, de qui et de quoi est constituée cette avant-garde? En premier lieu, de clercs, hein, qui par leur apostolat irriguent les différents acteurs de cette avant-garde. De clercs qui, par exemple, mettent en ligne leurs sermons, conférences, entretiens. Exemple, l'abbé Brossaint avec sa chaîne Tour de David. Exemple, le père Jacques avec sa chaîne Mont-Carmel. Exemple, l'abbé Rioux. Catholique de France a donné la parole à l'abbé Roger. Et je crois que d'autres clercs encore vont intervenir sur Catholique de France. Et je sais d'ailleurs aussi que d'autres clercs vont intervenir sur d'autres chaînes. Mais je ne donne pas les noms. Donc, au cœur de cette avant-garde, des clercs, et ma foi, c'est quand même normal. Hein. Bon. Autour de ces clercs s'agrègent des maisons d'édition, collectif Saint-Robert Bellarmine, qui font un travail, je trouve, moi, exceptionnel, et je déplore que personne ne parle d'eux. Édition Altitude, édition Vox Gallia, et j'en passe. Autour de cela s'agrègent des sites internet. Le fameux Philippos de Guillaume Fonazol, catholique de France, etc. Et autour de cela s'agrège toute une série de personnalités laïques. Ça va de votre serviteur, en passant par Maxence Eckhard, en passant par Guillaume Fonazol, Paul Étienne-Piercourt, Pierre Joly, et dans d'autres genres, Virginie Nota, Jean-Noël Toubon, ou quelqu'un qui a fait l'actualité. Dans les grands médias très récemment. Voilà, je vous laisse deviner de qui je parle. Donc, bah voilà, on est comme un moule, comme on dit au rugby, hein, et pas à pas, on avance et on fait reculer l'adversaire. On s'approche de l'en-but. On est parti de 5 mètres, hein. On est parti de 5 mètres, donc on a du retard. Mais en face, petit à petit, bah ça recule. Je me permets de dire ça parce que nous avons un petit succès médiatique. Disant cela, l'objectif n'est pas de se vanter, n'est pas de plastronner, de bomber le torse, c'est de constater le terrain qui a été gagné par ce pack qui avance. Quelques petits chiffres. La chaîne YouTube Deus Est avait fait une vidéo qui s'appelle La fausse église issue du Concile Vatican II. Cette vidéo va bientôt atteindre, je crois, les 80 000 vues. Et si on ajoute à cela, toutes les chaînes YouTube qui ont récupéré la vidéo et qui l'ont diffusée, on dépasse les 100 000 vues. Ce qui est énorme, ce qui est absolument énorme. Bon. On est loin de l'époque où le père Barbara criait dans le désert et les gens de la fraternité lui opposaient le silence et le mépris. On est très très loin de cette époque-là. Autrefois, notre problématique, enfin notre combat, était confiné à des revues très limitées, etc. Là, on s'adresse à tout le monde. Vous voyez? Moi-même, j'essaie de faire un maximum d'émissions qui concernent la défense de la foi. Je n'ai pas compté précisément le nombre de vues, mais je pense qu'on dépasse les centaines et les centaines de milliers de vues. Mon émission qui était consacrée à Fratelli Tutti, là, arrive bientôt à 50 000 vues. Vous voyez? C'était pour la démolir d'ailleurs, hein. Ce n'était pas pour en faire la promotion, je précise. Si jamais il y en a qui débarquent. La conférence, selon moi, historique, de l'abbé Viguenot du 24 octobre 2020 a été reliée sur un grand nombre de chaînes YouTube et je ne sais pas si on atteint 100 000 vues, mais je ne serais pas surpris. Voilà. La chaîne YouTube catholique de France, de son côté, lentement mais sûrement, monte en puissance. Donc, on a une masse critique, si je puis dire, hein, une masse critique médiatique. Et en face, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a aucun équivalent en face. Que ce soit chez les conciliaires ou les fleuristes, il n'y a pas d'équivalent à tout ça. Nous avons pour nous la vitalité. De même que face aux gauchistes, ce que j'appelle la nouvelle opinion publique a la vitalité, eh bien nous avons la vitalité face aux conciliaires et aux lefévristes. Alors quels sont les résultats de tout ça? À l'heure où nous parlons, hein, parce qu'on n'en est qu'au début de l'aventure. Bon. Bah déjà, il y a des conversions. Excusez du peu. Excusez du peu. Hein. Moi, je vous dis, à Paris, on voit très fréquemment des nouveaux visages. Et il y a beaucoup de, passez-moi l'anglicisme, de turnover à Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la région pour des raisons professionnelles ou personnelles. Malgré cela, depuis plusieurs années, le nombre a au moins doublé, quoi. Vous voyez? Je sais que dans d'autres régions de France, je dirais du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a le même phénomène dans les paroisses, donc concrètement, on fait des conversions. Et je précise que tout ce travail se fait avec des moyens humains et financiers absolument ridicules, entre guillemets. Hein. C'est vraiment les grâces du bon Dieu qui font le travail, là. Et alors, autre point d'un point de vue, je dirais, de la bataille spirituelle, et ça c'est fondamental. Et ça les chatouille un peu, hein. C'est que la vérité que la fraternité Saint-Pédis s'acharnait à étouffer depuis des décennies a échappé à sa chape de plomb. Autrement dit, tout son travail de lutte contre la vérité a été court-circuité. J'ai fait un certain nombre de réponses à des clercs lefévristes, zéro réponse. Que ce soit d'eux ou de laïcs lefévristes, zéro réponse. Zéro réponse. Bref, ça, c'est une petite révolution, encore une fois, parce que pendant longtemps, la vérité était confinée à des cercles clos et assez restreints. Maintenant, c'est l'inverse. Le message se diffuse de façon virale, comme on dit aujourd'hui. Et même au-delà de ça, la critique de Vatican II est de plus en plus au cœur du débat public. Monsieur Patrick Buisson, que vous connaissez, j'imagine, hein, ancien conseiller de Sarkozy, tout de même, a sorti un ouvrage, La fin d'un monde. Eh bien, il y a à peu près la moitié du livre qui est consacré à la critique de Vatican II. C'est fait d'ailleurs de façon pointilleuse et extrêmement intéressante. Et il vise Vatican II comme cause de la décomposition de la France et du catholicisme. Vous voyez? C'est l'un des intellectuels les plus médiatisés de France qui dit ça. C'est quand même très intéressant. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant aussi de Patrick Buisson, je pense que je vais faire une émission sur ce livre. Enfin, j'ai publié un article sur Yves Cougar en 2018, hein, qu'on peut retrouver sur le site de la maison d'édition, et j'écrivais par exemple cette phrase. À ce titre, on peut dire qu'il est le père de l'hérésie matricielle de Vatican II. Et à la page 87 du livre de Patrick Buisson, je lis ceci au sujet d'Yves Cougar, à telle enseigne que ses détracteurs l'élevèrent sans hésitation à l'indignité, entre guillemets, de père de l'hérésie matricielle de Vatican II. Tiens, tiens, petite coïncidence sémantique. Et des petites coïncidences sémantiques comme ça, j'en ai relevé quelques-unes, voyez-vous? Ce qui m'a fait conclure que Patrick Buisson et son collaborateur n'ont pas lu mon article sur Yves Cougar. Voilà. Bon. Tant mieux si les idées passent, tant mieux, tant mieux. Bref, j'en arrive à mon dernier livre, donc Les Apôtres du salut universel. Alors, j'ai attaqué la question Vatican II par un angle peu emprunté, quoique passionnant, qui est celui des hérésiarques de Vatican II. Et quand j'ai fait ce travail de recherche, je me suis aperçu, et je ne m'attendais pas à tomber là-dessus, hein, je vous le dis, je le savais pour Hans Urs von Balthasar, mais pas pour les autres, je me suis aperçu que ces messieurs adhéraient presque tous à l'hérésie du salut universel, selon laquelle tout le monde est sauvé et l'enfer est vide. Dans mon introduction, je fais toute une série de, enfin, je fais une longue série de citations du cardinal Wojtyla, du Peritus Jean Danielou, du Peritus Karl Renner, du Peritus Henri de Lubac, du Peritus Abbé Joseph Ratzinger, extrêmement explicites à ce sujet. Et il y a des citations de Maritain et de Théard de Chardin qui sont rattachables au salut universel. Alors, naturellement, j'ai envie de dire mécaniquement, puisque ces messieurs qui ont fait Vatican II adhéraient à cette hérésie, eh ben, on retrouve cette hérésie dans les textes conciliaires. On la retrouve implicitement dans Gaudium et Spes et explicitement dans le magistère Vostilien. Alors, le fondement de ce salut universel, c'est quoi? C'est la confusion entre la nature et la grâce. Ça, c'est le travail de Monsieur Henri de Lubac, qui est pour moi le vrai, finalement, père spirituel, enfin, le père de la matrice de Vatican II. À l'époque, je pensais que c'était de Congar, mais après réflexion, en numéro 1, je mettrais de Lubac. Rassurez-vous, Congar arrive en numéro 2 et Maritain, médaille de bronze. Donc, le fondement du salut universel, vous disais-je, c'est la confusion entre la nature et la grâce. La grâce, ça se retrouve donc dans Gaudium et Spes. Comment ça se retrouve? C'est très simple. Dans Gaudium et Spes, on nous dit qu'au moment de l'incarnation, le Christ s'est uni avec chaque homme. Chaque homme. Conclusion, raisonnement logique. Un individu qui est uni au bon Dieu pour toujours ne finit pas en enfer. Un individu qui est uni au bon Dieu, il ne va pas en enfer. Il n'y a pas besoin d'être Saint Thomas d'Aquin pour le comprendre. Bon. Donc déjà, il y a l'affirmation implicite du salut universel. Mais Wojtyla a explicité dans plusieurs textes le sens de cette phrase. Cette phrase que, petite parenthèse, on retrouvait dans un livre de Congar, de Lubac, pardon, en 1938 déjà. Donc vous disais-je, enfin c'est pas cette phrase qu'on retrouvait précisément, c'était une autre, ou c'est du quasi copier-coller, mais il y a d'autres passages de ce livre qui signifient la même chose, voilà, que ce passage de Gaudium et Spes. Je suis précis parce que je suis attendu au tournant généralement, vous voyez. Donc bon. Vous disais-je, donc, Wojtyla, en Redemptoris Missio, nous dit que le fondement du salut de tous, pas des justes, hein, le salut de tous, le fondement du salut de tous, c'est le fait que le Christ s'est uni à chacun pour toujours, indépendamment du baptême, de l'état de grâce, de la profession de foi, etc., etc., etc. À tous. Pour toujours. D'ailleurs, dans Rerum Novarum, Wojtyla nous dit, à l'époque, il y avait 4 milliards d'habitants, et bien il y a 4 milliards de participants en Jésus-Christ.
Cardinal Wojtyla, vous a pas échappé que sur les 4 milliards, la quasi-totalité n'est pas baptisée, etc. Bon, ça va pas le traumatiser. Selon la secte conciliaire, on est quand même un enfant de Dieu quand on n'est pas baptisé. Alors que selon l'enseignement de l'Église, ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est le baptême. On est une créature de Dieu seulement, sinon, bon, bref. Donc, mot pour mot, notre chère Carole Wojtyla nous dit le fondement du salut de tous, c'est qu'on est tous unis au Christ pour toujours, quoi qu'il arrive. Alors, je synthétise Vatican II en 5 étapes, qui ne résument pas tout, hein, mais certaines choses qui sont mises de côté, mais qui donnent une bonne colonne vertébrale, si je puis dire. Bon. Première étape. Rocca di Gerone III convoque un concile officiellement, pour réunir les hérétiques et les schismatiques. Mais, deuxième étape. Il ne les appelle pas à la conversion et à l'abjuration de leurs erreurs. Alors, on les agrège à l'Église via l'œcuménisme forgé par Congar. Et donc, au terme duquel, on peut se sauver en dehors de l'Église. Troisième étape, intervient le salut universel de Lubac. On est tous sauvés grâce à notre union personnelle avec le Christ. Quatrième étape, c'est là qu'intervient Maritain. Puisqu'on est tous sauvés, l'Église, entre guillemets, qui est réconciliée avec le monde, doit se mettre au service du monde et doit avoir une mission d'ordre temporel. Et la mission temporelle de l'Église, c'est de créer une fraternité universelle. Parce que si tout le monde se tient par la main, il n'y aura plus de guerre sur Terre, en gros. Voilà. Ces messieurs croyaient-ils au péché originel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et la cinquième étape, c'est très simple, c'est qu'on substitue à la vertu théologale, donc d'espérance, qui a pour fin la vision béatifique, on lui substitue la civilisation de l'amour de Monsieur Wojtyla, qui est ce que j'appelle moi une fraternité pélagienne, puisqu'on considère que le péché originel n'existe pas et qu'il n'y a plus d'opposition entre la cité du bien et la cité du mal. Donc voilà pour Vatican II. Alors tout ce travail de diffusion de vérité m'a valu un certain nombre d'insultes, d'attaques, de menaces, etc. Bon. Alors moi, première chose, hein, je prie pour la conversion et le salut de mes ennemis. Mais je voudrais dire à ces messieurs qui m'attaquent, je dis, mais vous savez, quand même vous arriveriez à démontrer que je suis bête, méchant, stupide, hypocrite, ceci, cela, mes arguments ne bougeraient pas d'un millimètre. Je procède par démonstration sur la base d'arguments d'autorité issus du magistère. Ma personne est indifférente. Quand je plaide, je ne dis pas, au fait, monsieur le président, j'ai oublié de vous le dire, mais mon confrère, il est très méchant. Hein. Il est très, très méchant. Hein.
Je plaide pas comme ça.
Quand je plaide, je dis, monsieur le président, le dossier de la partie adverse, il est bidon. Voilà. Et moi, j'ai les pièces du dossier qui vont vous faire comprendre la vérité. Donc les gens qui s'attaquent aux personnes, souvent, n'arrivent pas à s'attaquer au fond. Mais ce travail de vérité a aussi créé des controverses. Et notamment chez trois contradicteurs conciliaires. Je lance un appel, si un contradicteur, le fériste, veut venir me porter la contradiction, ce sera, je pense, extrêmement intéressant. Alors, le premier contradicteur qui s'est présenté à moi, c'est le très célèbre Arnaud Dumouche. Il a commencé à faire des vidéos contre votre serviteur dès 2019, et je lui avais répondu par écrit. Et je lui avais dit, bah, monsieur Dumouche, je vous invite à me répondre par écrit, parce que c'est plus clair, c'est plus simple, ça évite les sophismes, les argumentations sont figées, chacun peut se faire son opinion. Il m'avait répondu à l'époque qu'il ne croyait pas à l'écrit. Formule curieuse. Et lorsque j'ai lu son livre sur Marc Robin, j'ai compris effectivement pourquoi lui ne croyait pas à ses propres écrits. Oui. Bref. J'ai accepté de faire des débats avec lui. Dans un premier temps, on a fait deux débats ensemble. Et pendant que j'opposais des arguments fondés sur le magistère, d'ailleurs, j'ai pas d'autre argument que le magistère, moi je ne suis pas théologien, et ben, l'intéressé me disait que Isis, la déesse égyptienne, était une préfiguration de la Sainte Vierge. Qu'Osiris était une préfiguration du Christ. Qu'est-ce qu'il me disait d'autre? Oui, que le mosaïsme était antichristique. C'est-à-dire que la loi qui est faite pour préparer la venue du Messie est antichristique. Comme c'est sérieux. Comme c'est sérieux. Il m'opposait que le catéchisme du Concile de Trente avait validé des trucs de Luther, que des luthériens pouvaient avoir la foi. Bref, des hérésies assez saugrenues et un conciliaire de bonne foi, qui a un minimum de formation catholique, ricane, je dirais, en écoutant ce genre de choses. Bon. Donc, dans un premier temps, on a fait deux débats, et je crois que l'intéressé a dû penser que ça ne s'était pas très bien passé pour lui. Parce qu'il m'a, il était de façon très pressante, il m'a demandé à faire un troisième débat. J'ai fini par accepter. On fait ce troisième débat. Donc Arnaud Dumouche m'enchaîne, entre guillemets, des résistes au grenu comme d'habitude. Je lui oppose le magistère de l'Église. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce débat, je lis échec et mat. Bon, je pense que c'était déjà le cas avant. Mais en fait, dès le premier débat, Arnaud Dumouche m'avait opposé des références qui n'existent pas. Il m'avait opposé des pères de l'Église qui auraient défendu la liberté religieuse, comme c'est sérieux. Et bien entendu, le tout sans aucune référence. Hein. Bon. Il m'avait opposé que dans la condamnation de Marcion, on retrouvait sa conception de la pastorale. Je vous invite à lire votre Denzinger. Il n'y a aucune notion de la pastorale d'Arnaud Dumouche dedans. Bref. Et donc, je fais ce troisième débat avec Arnaud Dumouche. Et je lui pose la question qui tue. Je dis, monsieur Dumouche, quelle est votre source relative à votre conception de la pastorale? Alors, il me fait plusieurs réponses qui ne sont jamais les mêmes. Et il finit par me dire, ah, mais c'est dans Saint Thomas d'Aquin. Ok, pas de problème, monsieur Dumouche. En description de cette vidéo, vous nous mettrez la référence de saint Thomas, dans laquelle saint Thomas expose sa conception de la pastorale, et comme ça, nous pourrons tous constater qu'effectivement, oui, vous avez la même conception de la pastorale que saint Thomas. Les jours passent, le débat n'est pas mis en ligne. Les semaines passent, le débat n'est pas mis en ligne. Je commence à m'inquiéter, parce que je vois que Arnaud Dumouche, entre-temps, fait d'autres débats avec d'autres personnes, et que les débats se sont mis immédiatement en ligne. Je ne comprends pas trop. Je lui envoie un petit message sur Facebook, je dis « Monsieur Dumouche, vous publiez le débat ou pas là ?»« Ah oui, ok, oui, bon, moi je vais le mettre, d'accord. Bon. » Alors moi, j'attends avec impatience la référence de saint Thomas. Je vais apprendre des choses. Bon. Et qu'y a-t-il en description un lien Wikipédia qui mène au mot « pastoral » et un lien sur un glossaire conciliaire qui mène au mot « pastoral » C'est-à-dire que je demande une référence de saint Thomas, on m'envoie un lien Wikipédia. Donc, Arnaud Dumouche, pour me porter la contradiction, avait inventé une référence qui n'existe pas. Qu'il l'ait fait consciemment ou pas, seul le bon Dieu le sait, c'est pas notre problème. En tout état de cause, pour garder la face face à son public, outre des hérésies totalement saugrenues, il m'a opposé des références qui n'existent pas. Voilà. Le deuxième contradicteur qui s'est présenté à moi, c'est l'équipe de youtubeurs Archidiacre. Et c'est eux ont moins cherché à me répondre sur le fond qu'à dénigrer ma personne. Comme vous voulez, les gars. J'ai pu, au final, de toute façon, démontrer leur absence de rigueur doctrinale, malgré une érudition que je ne leur conteste pas, et leur méthode douteuse. Pourquoi méthode douteuse? Parce que c'est proprement fascinant. Ils m'inventent des mots, des paroles, des arguments que je n'ai jamais tenus. Concernant tel point que je traite dans la vidéo, ils disent « Adrien dit ça », vous allez voir la vidéo, je dis absolument pas ça, oui. Bon. Je mets tout ça en détail dans le bouquin. Mais le sommet de la polémique avec Archidiacre a concerné l'encyclique Evangelii Praecones, de Pie XII. On se rappelle que, donc, dans Querida Amazonia, Bergoglio invite, qui prétend être successeur de Saint-Pierre, invite à valoriser une mystique païenne. C'est très sérieux. Bien entendu, l'Église, dans son histoire, a toujours préconisé de valoriser les mystiques païennes. C'est très connu. D'ailleurs, les païens nous en sont très reconnaissants aujourd'hui. Hein, bon, bref. Et donc, quand je commente ce passage, je dis cette phrase, je dis, enfin, je crois que rien n'est à conserver dans les mystiques païennes, ou tout est à éradiquer, je ne sais plus ce que je dis, mais en substance, on comprend l'idée. Ceci a suscité vraiment la colère de mes contradicteurs conciliaires. Comment, monsieur Abouzi, vous dites que tout est à éradiquer dans les mystiques païennes? Ce n'est pas du tout ce qu'enseigne Pie XII. Et il me cite Evangelii Praecones. Alors on s'accroche. Ça va piquer. Citation de Pie XII. L'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens. Les doctrines des païens, c'est cette formule-là qui est centrale. Elle les a plutôt libérées de toute erreur et impureté, puis achevées et couronnées par la sagesse chrétienne. Que nous dit Pie XII? C'est très simple. Il nous dit que l'Église a repris les doctrines philosophiques des païens, bien entendu, et qu'elle les a épurées et catholicisées, comme saint Thomas l'a fait avec Aristote. Je pense que c'est parfaitement clair. Et tout le monde connaît plus ou moins ça quand on a, je dirais, enfin, toutes les personnes qui ont un minimum de formation comprennent ça. Mais Mais mon contradicteur Archidac n'a pas compris comme ça Evangelii Praecones. Il a compris que doctrine païenne signifiait croyance religieuse païenne. Citation de mon contradicteur. Ne méprisant pas les croyances païennes, soulignant bien qu'il s'agit ici de croyances religieuses, non pas juste de culture, car Pie XII fait la distinction. Le pape parlait bien de religion, contrairement à ce qu'Adrien a essayé de dire sur sa radio. Donc, mon contradicteur nous disait donc que l'Église n'aurait jamais traité avec mépris les croyances religieuses païennes et qu'elle les aurait libérées de toute erreur et impureté, puis achevées et couronnées par la sagesse chrétienne. Ce qui veut donc dire que l'Église aurait intégré à la foi des croyances religieuses qui, à la base, sont extérieures au dépôt de la foi. Ça n'a aucun sens. Quand on a un minimum de connaissances théologiques, on mesure que ça n'a absolument aucun sens. Ce raisonnement de bon sens aurait dû suffire à mettre un terme à la polémique. Bon. Mais pour mettre échec et mat de façon absolument incontestable, surtout auprès des personnes non formées, mon contradicteur, qu'ai-je fait ? C'est très simple. Je suis allé voir les traductions anglaises et italiennes de Evangelii Praecones. Et comment, dans la version anglaise, est traduite la formule « doctrine des païens » ? Pagan philosophies. Pagan philosophies. Donc aucun rapport avec les croyances religieuses païennes. Et dans la version italienne, c'est « il pagano pensiero », je crois, quelque chose comme ça. La pensée des païens. Bref, mon contradicteur avait fait une interprétation totalement hérétique d'Evangelii Praecones. Je l'ai invité à reconnaître publiquement son erreur. Bon, ben, il a oublié de le faire à ma connaissance. Voilà. Mon cher archidiacre, si tu m'entends, je t'invite à faire un mea culpa sur ton interprétation hérétique d'Evangelii Praecones. C'est pas bien de faire dire à Pie XII ce qu'il ne dit pas. Bref. Il m'attaque plus depuis. Hein. Bref. Alors, le troisième contradicteur qui est venu, c'est le père Horowitz. Alors, le père Horowitz m'a beaucoup apprécié, fut un temps. Mais il s'est retourné contre votre serviteur. Pourquoi ? Parce qu'il a appris que les catholiques contestaient la validité du sacrement de l'ordre du sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Pourquoi contestons-nous cette validité ? C'est fort simple. Pour qu'un sacrement soit valide, il faut trois conditions. Hein. Vous le savez, matière, forme, intention. Pie XII, en 47, fait le texte Sacramentum Ordinis, dans lequel il précise ce qu'est la forme du sacrement de l'ordre pour l'épiscopat. Et il nous dit que de façon univoque, ce mot est très important, de façon univoque, ça doit désigner le pouvoir de l'ordre, c'est-à-dire le stade suprême du sacerdoce, donc l'épiscopat. Si vous prenez les rites latins et les rites orientaux, tous désignent le stade suprême du sacerdoce qui est transmis par l'évêque qui impose les mains. Tous. Que fait la réforme, que fait Paul VI dans sa réforme ? Qu'est-ce qui est transmis par l'entre guillemets évêque, quand il fait un évêque, quand il impose la main, il transmet le spiritum principalem, l'esprit qui fait les chefs. Est-ce que esprit qui fait les chefs, ça désigne de façon univoque le stade suprême du sacerdoce ? Est-ce que ça désigne l'épiscopat, les évêques ? Réponse non. On peut peut-être le rattacher en faisant une interprétation acrobatique, mais est-ce que de façon univoque, ça désigne le stade suprême du sacerdoce ? Réponse non. Les dominicains d'Avrier ont essayé de porter la contradiction à Rore Sanctifica, ils se sont brisés les dents. Voilà. D'ailleurs, j'invite ceux qui ne l'ont pas fait à aller lire le travail de Rore Sanctifica à ce sujet. Parce que ça, c'est le sujet atomique. Hein. C'est le sujet atomique, ça. Bon. Donc, quand il a appris ça, notre cher Père Horowitz s'est mis à attaquer la position de Nonacum. Bon. À travers votre serviteur. Alors, ce qui est original, c'est que pour m'attaquer, il a attaqué des dogmes. Mauvaise idée quand on se dit catholique, quand même. Hein. Mauvaise idée. Bon. Alors, la première victime collatérale du père Horowitz, c'est l'infaillibilité pontificale, sur laquelle il m'a opposé au moins trois hérésies. Il m'a opposé que les évêques réunis en concile, à eux seuls, étaient infaillibles. Et en vidéo, il le répète en ricanant, en me disant « Mais vous voyez, vous y comprenez rien, monsieur Abodi, etc. » Et il insiste, hein, « Les évêques réunis en concile, ils sont infaillibles, hein, qu'est-ce que vous en faites hein ?» J'en fais rien parce que c'est pas ce que c'est de l'Église. Donc, voilà, poubelle. Deuxièmement, il a nié l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Grand classique, la négation de l'infaillibilité du magistère ordinaire. Et il nie l'infaillibilité Des canonisations. Or, les canonisations, ce sont des actes du magistère extraordinaire, elles sont infaillibles. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il voit peut-être venir la canonisation de Marthe Robin, donc là, il commence à s'inquiéter, là. Bon, bref. Donc, victime collatérale, première victime collatérale, l'infaillibilité. Alors, j'ai fait une vidéo de mise au point, je lui oppose tous les textes du magistère, ça n'a pas beaucoup perturbé, j'ai l'impression, et il n'a jamais admis ses erreurs. Bon, passons. Le père Horowitz m'a accusé d'être favorable aux conversions forcées. Pourquoi? Parce que, à l'instar du magistère, j'ai condamné la liberté de conscience. Pour le père Horowitz, c'est un synonyme d'être favorable aux conversions forcées. Alors, je lui ai expliqué, j'ai dit, attendez, père Horowitz, la liberté de conscience, c'est la liberté qu'a un individu de se forger son propre ordre moral, sa propre morale, indépendamment de celle de l'Église. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas s'affranchir de la morale de l'Église et se faire sa propre morale. Donc, ça a été condamné par Mireille Rivos dans Grégoire XVI. Ça n'a rigoureusement aucun rapport avec les conversions forcées, vous voyez. Mais dans son séminaire, semble-t-il, ça n'a pas été appris au père Horowitz. Bon. Et alors, je garde quand même le meilleur pour la fin. Dans une vidéo, le père Horowitz m'opposait qu'il pouvait prendre n'importe quelle page du catéchisme du Concile de Trente et adhérer, et n'importe quelle page du catéchisme de, entre guillemets, l'Église catholique en vérité de la secte conciliaire, et y adhérer. Et je lui dis, ah non, père Horowitz, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? C'est très simple. Parce que dans le catéchisme du Concile de Trente, la peine de mort est validement, est infailliblement, pardon, validée. Dans la toute dernière version du catéchisme de la secte conciliaire, la peine de mort est prohibée. Et non seulement elle est prohibée, mais Bergoglio ose dire qu'elle est contraire à la dignité humaine. Donc Bergoglio accuse l'Église catholique, en matière de morale, d'avoir validé des mesures contraires à la dignité humaine. Et ça, ça passe café crème chez nos amis conciliaires. Bon. En tout état de cause, d'un côté, nous avons l'affirmation d'un principe. De l'autre côté, nous avons la négation d'un principe. Donc là, il n'y a pas d'échappatoire. Que fait le père Horowitz pour me répondre? Il prend l'avant-dernière version du catéchisme conciliaire, dans laquelle le recours à la peine de mort est encore autorisé. Il le lit et dit, bah oui, monsieur, vous dites que la peine de mort est encore validée dans l'Église catholique, lol. Alors, c'est deux choses l'une. Hein. Soit le père Horowitz a manipulé son public, je ne le crois pas, je pense que c'est quelqu'un de bonne foi et de bonne volonté. Soit c'est pas le cas, et dans ces cas-là, je lui dis en toute amitié, parce que je pense que c'est pas quelqu'un de méchant, que quand on n'est pas au courant de l'actualité spirituelle, il vaut mieux ne pas aller sur le front. Voilà, c'est pas recommandé. Et bien entendu, concernant la contradiction entre le catéchisme du Concile de Trente et le catéchisme de la secte conciliaire, zéro réponse. Et encore une fois, il n'y a rien à répondre. Puisque d'un côté, il y a l'affirmation d'un principe comme quoi la peine de mort est validée par l'Église. Et en face, il y a la négation de ce principe. Merci, merci Jorge Mario Bergoglio. Merci. Il nous donne des billes. Voilà, il ne faut pas les refuser. Parce que parfois on nous dit, oui, bon, c'est vrai, il y a des textes ambigus, pas clairs, mais bon, au final, avec des interprétations. Bon, alors déjà, premièrement, le magistère, c'est explicite, il n'y a pas besoin de l'expliciter. Bonjour, monsieur l'abbé. Il n'y a pas besoin de l'expliciter pour le rendre orthodoxe. Hein, il est orthodoxe pour lui-même, si je puis dire. Et que vous disais-je, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Bon. En tout cas de cause, zéro réponse sur la question de la peine de mort. Et il n'y a rien à répondre. Voilà, c'est un petit cadeau que nous a fait Bergoglio, c'est qu'il nous a donné un argument clair, net et précis à opposer aux conciliaires. Vous voyez? Clair, net et précis. Donc au final, mes contradicteurs m'ont opposé des sophismes à foison, et dans la deuxième partie de mon livre, je fais le bilan de tout ça, et on voit que c'est vraiment des sophismes. Enfin, je suis fasciné d'ailleurs par leur capacité à générer des sophismes, et à ne pas s'incliner, si vous voulez, non seulement devant la vérité, mais devant l'évidence. C'est vraiment fascinant, quoi. On m'a opposé des inventions, hein, CF Monsieur Arnaud Dumouche, hein, et des approximations, CF le père Horowitz. Je lance un appel, une fois encore. Si un contradicteur lefévriste souhaite se manifester, ce sera avec grand plaisir. Je note quand même que le seul qui m'a affronté face à face, c'est Dumouche. Hein. Les autres n'ont pas voulu. Hein. Bon, je suis pas méchant pourtant. Hein. Bref. Donc, Voilà, donc j'appelle, hein, si un contradicteur lefévriste veut se manifester, je pense que ce serait très utile pour la cause. Et puis ça lui donnerait la possibilité de me ridiculiser face à la France entière. Voilà. Donc, ami lefévriste, saisissez cette opportunité. Bon, bref. Alors, avant d'en arriver à la question de la fraternité, je voudrais faire une mise au point névralgique. Il m'est reproché sur les réseaux sociaux de dire quelque chose d'horrible. J'ose dire que les conciliaires et les lefévristes ne sont pas catholiques. Bon. Je me fais attaquer pour ça. Je me fais critiquer en tout cas pour ça. Bon. Soyons très clairs. L'Église a toujours fixé des conditions d'appartenance. Tout le monde n'est pas catholique, n'en déplaise à M. Wojtyla. Bon. Donc si l'Église fixe des conditions d'appartenance, c'est que si on remplit ces conditions, on est catholique. Si on ne les remplit pas, on n'est pas catholique. Voilà. Bon. Il y a la question de l'ignorance invincible. Il y a la question de l'hérésie matérielle. Mais laissez-moi retrouver ce passage. Il me semblait que je l'avais identifié. Voilà. Mais nous dit Pie IX concernant l'ignorance invincible dans Singulari Quadam. Qui osera s'arroger le droit de marquer les limites d'une telle ignorance, tenant compte des diverses conditions des peuples, des pays, des esprits et de la multiplicité infinie des choses humaines. Ce que nous dit Pie IX, c'est que l'ignorance invincible ne relève pas du genre humain. C'est le bon Dieu qui s'occupe de ça. Nous, ce qui nous occupe, c'est le fort externe. Et c'est la question des principes sur le fort externe. Voilà. Alors, quels sont... Alors, attendez, juste, je termine juste parce que petite dédicace aux hérésiarques finalistes qui nous disent que le magistère n'enseigne pas l'ignorance invincible, le baptême de désir. Bah écoutez, Saint Pie X l'enseigne dans son catéchisme doctrine chrétienne, Pie IX en parle dans son encyclique Quanto, alors Confitiamur Moorore, on appréciera l'accent, et il en parle dans son allocution Singulari Quadam. Messieurs les finistes, vous n'êtes pas mieux informés que Saint Pie X. Et Pie IX, voilà, hein, parce que quand les gars ont regardé 5 vidéos YouTube et ils se permettent de manquer de respect à Saint Pie X et Pie IX, ça suffit quoi, hein. Bon, bref. Donc, quelles sont les conditions d'appartenance à l'Église? Alors, pour vous les citer, j'aurais pu invoquer tout simplement le catéchisme de Saint Pie X, mais je vais être un peu plus malicieux. Je vais vous citer un autre prêtre, enfin, je vais vous citer un prêtre, pardon, qui a écrit un texte en 1964. Et dans ce texte, que nous dit ce prêtre? Il nous dit, dans les schémas préparatoires de Vatican II, on avait conservé les conditions d'appartenance à l'Église telles que enseignées depuis toujours. Et ça pose un gros problème. Un gros problème. Ouais. Seuls les catholiques pouvaient être considérés comme membres de l'Église. C'est horrible. C'est horrible. Bon. Et donc, le schéma de 62 qui conservait ces conditions, on l'a mis à la poubelle et on en a fait un autre.
Qui est le prêtre
qui a écrit cela? Un certain abbé Joseph Ratzinger. Citation. Ces trois conditions d'appartenance à l'Église étaient le baptême, en réalité c'est la participation au sacrement, la profession de la même foi et la reconnaissance de la hiérarchie avec à sa tête l'évêque de Rome. Seul celui qui remplissait ces trois conditions pouvait être appelé membre de l'Église. Il est évident qu'il s'agissait d'une problématique rétrécie, qui certes n'excluait pas fondamentalement d'autres, mais qui conduisait cependant à ce que le concept de membre de l'Église ne puisse concerner que les catholiques. Mon Dieu, quelle horreur! Seuls les catholiques sont membres de l'Église! Et c'est ça qui choquait les modernistes et conciliaires. Bref. Donc l'abbé Ratzinger nous résume les trois conditions pour être catholique. Participation au sacrement, profession de la foi, reconnaissance et soumission à la hiérarchie. Question, les conciliaires et les lefévristes ont-ils la foi? Bon. Qu'est-ce que la foi? Catéchisme du Concile de Trente, c'est l'adhésion aux vérités révélées de Dieu. Léon XIII nous dit, si vous n'adhérez pas à une seule de ces doctrines, vous êtes hérétique. Benoît XV nous dit « La foi, c'est intégral ou c'est pas du tout. » Adhérer à 99% des dogmes, c'est très hérétique. Bon. Les conciliaires ont-ils la foi? Est-ce qu'ils adhèrent à toutes les doctrines de l'Église? Non, puisqu'ils en nient des dizaines, des dizaines, des dizaines. Bon. Question, les lefèvristes ont-ils la foi? Ils nient au moins trois dogmes. Ils nient l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, l'infaillibilité des canonisations et la soumission due à tous les papes. On n'a aucun problème pour dire que les phénistes ne sont pas membres de l'Église alors qu'ils n'en nient qu'un seul. Donc je suis désolé, les conciliaires lefévristes qui adhèrent aux erreurs de leur secte ne sont pas catholiques. Voilà. Et je l'assume, et je l'assumerai devant le bon Dieu. J'assumerai de l'avoir dit. Et ce n'est pas rendre service aux gens que de les conforter dans leur voie de garage. Voilà. C'est ça, je pense, qui est un péché. Passons. Alors, pour terminer sur ce sujet, quand même, petite citation de Benoît XIV, qui prenait pas de gants. Ceux qui ont été baptisés par des hérétiques, lorsqu'ils sont parvenus à l'âge auquel ils peuvent distinguer par eux-mêmes le bien du mal, et qu'ils adhèrent aux erreurs de celui qui les a baptisés, ils sont rejetés de l'unité de l'Église. Quand on est validement baptisé, mais qu'on adhère, une fois l'âge de raison atteint, on adhère aux erreurs, on est rejeté de l'unité de l'Église, signé Benoît XIV. Et il ne précise pas, sauf qu'à l'ignorance invincible ou hérésie matérielle, parce que ça va de soi d'une part, et parce que ça, ça relève du jugement du bon Dieu. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fort externe, et c'est la défense des principes sur le fort externe. Voilà. Cette mise au point devait être faite. Nous n'avons pas la même Église que les conciliaires. J'oubliais, parce que je posais la question sur la question de la foi, mais c'est pareil sur la question de la reconnaissance de la hiérarchie. Les conciliaires et les lefévristes sont soumis à une hiérarchie qui n'est pas la hiérarchie instituée par Jésus-Christ. Léger problème, quand même. Hein. Léger problème. Bon. Cette mise au point devait être faite. J'en arrive maintenant à la question de nos amis. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Enfin, j'ai comme des clients à la fraternité, hein, je vous le dis. Bon. Ils ne sont pas rancuniers. Pourquoi ils ne sont pas rancuniers d'ailleurs? Parce que nombre de lefévristes, non, je ne mets pas tout le monde dans le lot, je ne fais pas d'amalgame, hein, on se rassure, on se détend. Nombre de lefévristes ne savent pas ce que c'est l'acte de foi. Et quand on nie l'infaillibilité du magistère ordinaire, on ne sait même pas sur quoi repose la foi. Je ne sais plus si c'est l'abbé Glaise, mais je me rappelle d'un livre écrit par un clerc, le lefévriste, qui disait « On ne sait pas si les encycliques de Léon XIII sont infaillibles. Bon, » ça veut dire qu'il ne sait pas à quoi il doit adhérer ou pas, ce clerc. Bon. Bref, je fréquente beaucoup de lefévristes socialement, et ils ne sont pas, absolument pas rancuniers en fait, de mes attaques contre la fraternité. Voilà. Et de ma position, ils ne sont pas hostiles à ma position parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'acte de foi. Voilà. La question qui tue, entre guillemets, c'est quel principe tu défends? Ben moi, je ne sais pas quel principe ils défendent. Je ne sais pas. Et pour eux, être catholique, très souvent, c'est avoir une bonne messe et critiquer Vatican II. Vous voyez, ben, ça ne suffit pas. Les conditions pour être catholique, notre cher abbé Ratzinger nous les a rappelées. Bref, j'en arrive à la fraternité. Donc, j'ai pas mal traité de cette question dans mes dernières émissions. Et je résume l'imposture de la fraternité en trois points. Premier point, elle professe les hérésies avec pertinacité, on va l'évoquer. Deuxième point, elle est ralliée à la secte conciliaire par des accords pratiques, par l'unacum, par la demande de réintégration, c'est-à-dire la demande de levée des excommunications. Et ils appliquent le droit canon conciliaire. Je renvoie au livre de l'abbé Pivert relatif au procès des abbés, Pinault et Salna. Je dois avouer que je ne savais pas qu'ils en étaient arrivés là. Bon. Et aussi, ils ont accueilli le faux évêque Wander, quand même, qui a eu l'honneur de célébrer la messe au séminaire en Allemagne. Donc la fraternité est ralliée à la secte, et la fraternité affaiblit la résistance. Pourquoi ? Parce qu'elle a des moyens monumentaux, et les âmes sincèrement désireuses de lutter contre Vatican II sont aspirées par la Fraternité Saint-Pédis et ensuite converties au gallicanisme. Bon. Donc ils affaiblissent la résistance. Dans mon bouquin, je fais à un moment donné une longue liste de questions dans lesquelles je résume les griefs qu'un catholique peut et doit porter contre la fraternité. Mais là où je voulais en venir, c'est que, à la base de l'imposture de la fraternité, qui est-il? Il y a une praxis viciée. Cette praxis consiste à dire ceci. Nous considérons comme étant l'Église catholique les autorités conciliaires tant que il n'y a pas une décision contraire de l'autorité, comme si les oseaux allaient se tirer des balles dans le pied. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on oppose à cela? La praxis de la fraternité vise non pas à éradiquer le mal, mais à cohabiter avec le mal. Et je rappelle que, ça c'est Pidouze qui le dit, le mal n'a aucun droit à l'existence. Que fait la fraternité aujourd'hui pour précipiter la chute de la secte conciliaire? Réponse, rien. Ouais. Au contraire, il nous attaque. Bon. Alors, la question se pose, est-ce que lorsque un mal gigantesque ravage les âmes, est-ce que le devoir du catholique, c'est de rester les bras croisés en attendant que le mauvais temps passe? Parce que c'est fait la fraternité. Hein, on va attendre une décision de l'autorité, autorité qu'on ne combat même plus. Hein. Je renvoie à l'entretien entre le père Jacques et Mgr Felet. Mgr Felet faisait grief au père Jacques d'avoir des problèmes avec Rome. Je rappelle à Mgr Felet quand même qu'il a été entre guillemets excommunié pendant 20 ans hein, par ces gens-là. Bon, il a oublié, passons. Alors donc je réponds par Saint Bernard de Clairvaux. Et on va s'intéresser au schisme d'Anaclet II. Donc en 1130, le pape Honorius II décède. Est alors élu le pape Innocent II. Mais des cardinaux factieux ne vont pas accepter ce dénouement. Donc que vont-ils faire? Ils vont élire un autre cardinal, le fameux Anaclet II. Anaclet II va faire chasser Innocent II de Rome. Et Innocent II va trouver refuge en France. Anaclet II va rester officiellement, je dis bien officiellement, pape régnant à Rome jusqu'en 1138, jusqu'à sa mort. Que se passe-t-il en attendant au royaume de France? Innocent II arrive en France et le roi Louis VI le Gros est embarrassé. Cet individu se présente à moi, il prétend être pape. Mais il y a déjà un pape régnant à Rome. Que faire? Alors Louis VI le Gros va convoquer un concile, le concile des temples. Ce n'est pas l'autorité qui convoque le concile des temples, c'est Louis VI le Gros. Et dans ce concile, le clergé français, en premier lieu l'épiscopat bien entendu, va devoir se prononcer. Qui est pape? C'est Innocent II ou c'est Anaclet II? L'épiscopat français va se reporter sur Saint Bernard de Clairvaux. Donc la tâche qui consiste donc à indiquer, à désigner qui est le véritable pape, va reposer sur un seul homme. Vous vous rendez compte? Le poids gigantesque. Arrêt sur image. Donc là, des catholiques, sans feu vert de l'autorité, sans impulsion de l'autorité, osent, entre guillemets, s'interroger sur qui est pape et qui ne l'est pas. À l'époque, je le rappelle, il y a un pape officiellement qui règne à Rome. Pape qui règne à Rome et qui, au passage, c'était un antipape, mais qui, au passage, n'avait pas embrassé le Coran, n'avait pas modifié les paroles de Notre Père, n'avait pas professé des hérésies à tout bout de champ, n'avait pas de discours homophile, n'avait pas fondé sur son magistère sur le Talmud, n'avait pas fondé son magistère sur le cinéma d'Anno des années 80, etc., etc., etc. Je vise un certain Jorge Mario Bergoglio en disant cela. Bon, passons. Après avoir cité le Talmud, je prends le pari qu'un jour il citera le Coran ou des hadiths ou des trucs comme ça dans ses textes. Il a déjà cité un mystique soufi, hein, alors pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Bref. Donc, je répète, donc des catholiques s'interrogent sur qui est pape et qui ne l'est pas, sur la seule base de leur raison et de leur libre arbitre. Bon. Saint Bernard va trancher, le pape, c'est Innocent II. Je précise parce que j'ai fait un lapsus dans une édition là, il y a peu longtemps. Donc le pape, le vrai, c'est Innocent II, et l'antipape, c'est Anaclet. Donc, Innocent II est reconnu pape par le clergé français, et il va se tenir ensuite un certain nombre de conciles à l'initiative d'Innocent II, dans lequel l'anathème va être jeté sur Anaclet II. Anaclet II va finir par décéder en 1138, Et il va avoir un successeur, Victor IV, je crois, de mémoire. Et Victor IV va se rallier, Dieu merci, rapidement, à Saint-Bernard de Clairvaux, ce qui mettra fin au schisme de facto. De facto. Mais, de juré, il faut attendre le deuxième concile de Latran pour que soit condamné le schisme d'Anaclet II. Expérience intéressante. Ça veut donc dire que une praxis de condamnation du mal, consistant à dire la vérité, tout simplement. Et petite parenthèse, nous on peut la dire beaucoup plus facilement que Saint-Bernard, parce que nous on peut se reposer sur le magistère. Alors que Saint-Bernard, pour régler son problème, il ne pouvait pas se reposer sur le magistère, le pauvre. Bref, une praxis de condamnation du mal a précédé, pour ne pas dire provoqué, la condamnation officielle du mal par l'Église. Vous suivez mon regard. Vous suivez mon regard. Donc je répète, parce que ça c'est fondamental et c'est un des principaux messages que je veux faire passer. La praxis de condamnation du mal, qui consiste donc à dire la vérité, a précédé la condamnation officielle du mal par les autorités. Donc Saint Bernard de Clairvaux n'a pas écouté les penseurs de la fraternité. Voilà. Donc l'arme de la victoire, c'est cette praxis de combat. L'arme de la victoire, c'est la vérité. Vérité dont la fraternité Saint-Pédis nous a dépouillés pendant des décennies, mais que la Providence, miraculeusement, parce que c'est un miracle, a remis entre nos mains. Voilà. Et puisque la vérité est l'arme de la victoire, puisque la vérité est ce qui fait peur à nos ennemis, eh bien nous n'avons pas à nous excuser de dire la vérité, et nous la martèlerons jusqu'à la disparition complète de cette secte démoniaque. Je vous remercie.